Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Psachim, page 77, Daf Ayin Zayin. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons besoin de mentionner dans la Mishnah les bourgs expiatoires de Rosh Chodesh. Pourquoi ? J'aurais pu penser dire « Aloktiv Beumoid ». Il n'est pas dit à propos de Rosh Chodesh le mot Moed, une fête. Il n'est pas dit explicitement dans la Torah que c'est une fête. Et donc j'aurais pu penser, puisqu'il n'est pas dit explicitement dans la Torah que c'est une fête, alors les boucs de Rosh Chodesh ne repoussent pas les lois la loi interdisant d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Et donc c'est ce que la Mishnah vient nous apprendre. Kamash malan de Rosh Chodesh ikre Moed. Est-ce que ça vient nous apprendre que Rosh Chodesh est quand même appelé Moed une fête, et c'est pour cela que les boucs de Rosh Chodesh repoussent l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Comment cela? Kede Abaye, comme l'a dit Abaye, de Amar Abaye, car Abaye a dit, Tamuz de Hai Shata, Tamuz de cette année-là, et Abaye nous parle à propos d'autre chose, et à propos, il y a une Gemara qui nous parle des Meraglim, des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés en Eretz Israël, et la Gemara fait le compte quand c'est qu'il les a envoyés, quand c'est qu'ils sont revenus, etc. Et Abaye nous dit que le Tamuz de cette année-là où Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs en Eretz Israël, ce Tamuz était plein, c'est-à-dire c'était un mois de 30 jours, pas un mois de 29 jours, mais c'était un mois de 30 jours. Dirtiv, comme il écrit, Kara alai moed lishbor bachurai. Et la traduction littérale de ce verset nous dit, il a convoqué une assemblée pour briser mes jeunes guerriers. Mais en fait, Abaye, lui, explique ce verset différemment que la traduction littérale, et il dit, Kara alai moed, il a fixé un jour de fête pour anéantir mes jeunes guerriers. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a fixé le mois de Tamuz de cette année-là où les Bnei Israël, où Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs en Israël. Il a fixé le mois de Tamuz de 30 jours. Et donc il a fixé Rosh Chodesh un jour plus tard que d'habitude afin que le jour où les explorateurs reviennent, ça tombe le 8 Av, et que les Bnei Israël pleurent donc le soir du jour où les explorateurs sont revenus, c'est-à-dire le soir du 9 Av, et ce fameux jour qui a été décrété comme étant un jour de pleurs à jamais. Et donc, de ce verset-là, nous apprenons que Rosh Chodesh est aussi appelé Moed, un jour de fête. Et donc, puisqu'il est appelé un jour de fête, même les sacrifices qui sont offerts à Rosh Chodesh repoussent l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Alors, la Gemara demande, les membres des Kulu, mi Moed, à tout. Allons-nous dire que tous ces cinq offrandes qui ont été mentionnées dans la Mishnah, nous apprenons que cela repousse l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté, parce que c'est nous l'apprenons du mot Moed, que c'est une fête. Mina anemile, comment apprenons cela? Alors l'Agma nous dit, d'Etano Rabbanan, car nos sages nous ont enseigné. Il est écrit dans le verset, Vaidaber Moshe et Moade Hashem. Et Moshe exposa les fêtes de Hashem. Ma Talmud Lomar, pourquoi le verset a-t-il besoin de dire une chose pareille? Ça a déjà été enseigné plus haut que Moshe a apporté au Béné Israël toutes les fêtes de Hashem. Alors l'Agma nous dit, les fiches et l'Olama, Noël, Aletamid ou Pessah, car nous n'avons appris que à propos du sacrifice holocauste journalier et du sacrifice de Pessah que ces deux sacrifices repoussent l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Chez Neymar, car il est dit à propos de ces sacrifices, Bémoado, en leur temps. Et de là, nous apprenons, Bémoado, en leur temps, va filo Béchabat, que ces sacrifices doivent être offerts en leur temps, même un jour de Shabbat, Bémoado, en leur temps, va filo Bétouma. Même si la majorité du peuple est impure, on devra offrir ces sacrifices en leur temps, c'est-à-dire, même en étant en état d'impureté. Maintenant, Char Korbanot Sibur Minayin, les autres sacrifices de l'assemblée, du public, d'où je sais que eux aussi repoussent l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté, chez Neymar, comme il est dit, El et Asu Lachem Bemoadechem. Et cela, et nous parlons dans ce verset des sacrifices, des fêtes, vous les ferez à Hashem en leur fête, et en fait en leur temps aussi. Alors donc de là nous apprenons que tous les sacrifices des fêtes doivent être offerts en leur temps, c'est-à-dire durant la fête, et donc qui repoussent l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Minayin le rabot, Omer ve'akarevimo, d'où je sais que dans ce qui est écrit, et cela, vous les ferez pour Dieu en leur temps, et nous ne parlons pas seulement des sacrifices, nous voulons inclure aussi l'offrande de Homer, et ce qui est offert avec l'offrande de Homer, et Shete Alechem Vakarev Imam, et les deux pains, et ce qui est offert avec ces deux pains, Talmud Lomar, le verset nous dit, Vaidaber Moshe et Moade Hashem el Bene Israël. Et Moshe exposa les fêtes de Dieu au Bene Israël. Akatuv Kevao Moed Echad Lekulam. Le verset a fixé que tout ce qui avait été rapporté plus haut est considéré comme étant une seule fête. Or, plus haut a été rapporté aussi les versets concernant l'offrande du Homer et l'offrande des deux pains. Et donc, tout ce qui est appelé Moed une fête, donc toutes les offrandes des fêtes, peuvent être offertes en état d'impureté lorsque la majorité du peuple est en état d'impureté, car elles doivent être offertes en leur temps. Ragma demande, pourquoi avons-nous besoin de tellement de versets pour apprendre cela? Pourquoi nous ne pouvons pas apprendre un sacrifice de l'autre? Ragma nous dit, nous avons besoin. Si nous n'avons écrit que à propos du sacrifice holocauste journalier, que cela refute, que cela repousse l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté, alors Haba Amina, j'aurais pu penser dire, Tamid Shekin Tadir, le sacrifice holocauste journalier, c'est un sacrifice journalier, tous les jours on l'offre, Vekalil, et il est entièrement consumé sur l'autel. Aval Pessah, mais le sacrifice de Pessah, l'eau, non, lui, étant donné qu'il n'a pas ces règles-là, il ne repousse pas l'interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Car Mashmala, c'est pour cela que le verset vient nous l'apprendre aussi à propos du sacrifice de Pessah. Vekatavrachmana Pessah, et si la Torah n'avait écrit que à propos du sacrifice de Pessah, que cela refute, que cela repousse les lois d'impureté, alors j'aurais pu penser Pessah chez Wanush Karet, seulement à propos du sacrifice de Pessah, que si on ne l'offre pas, on est puni d'une peine de retranchement, alors étant donné qu'il a une punition tellement grave, c'est pour cela que cela repousse les lois d'impureté. Aval Tamid Dehen Anush Karet, mais le sacrifice de l'holocauste journalier, qui, si on ne l'offre pas, n'est pas puni d'une peine de retranchement, Imalo, alors j'aurais pu penser qu'il ne repousse pas les lois d'impureté, et Kamash Manan, c'est pour ça que la Torah a écrit aussi à propos de l'holocauste journalier. Et si la Torah n'avait écrit que à propos du sacrifice de Pessah et à propos de l'holocauste journalier, alors Hava Amina, Hane ou Deyesh Ben Tzad Hamou, seulement ces deux sacrifices qui ont quelque chose de sévère, quoi? Tamid, Tadir Vekalil, le sacrifice de l'holocauste journalier, il est journalier et il est entièrement consumé sur l'autel, et Pessah, Shouan Ushkaret, et le sacrifice de Pessah, si on ne l'offre pas, est puni d'une peine de retranchement. Et donc j'aurais pu penser que seulement ces deux-là repousse les lois d'impureté. Mais les autres sacrifices publics ne repoussent pas les lois d'impureté. Aval, char, korbanot, sibon, mais les autres sacrifices publics, imalo, j'aurais pu penser que non. Alors c'est pour ça que katav rachmana, elle est assou la shem bemoadechem. C'est pour ça que la Torah a écrit à propos des sacrifices des fêtes, et cela vous les ferez à Hachem durant vos fêtes et en leur temps, c'est-à-dire durant les fêtes, mais si vous êtes en état d'impureté. Et si la Torah n'avait écrit que ce verset, et cela vous les ferez à Hachem durant leur temps, et nous parlons donc bien sûr des sacrifices des fêtes, et donc si la Torah nous avait écrit que à propos des sacrifices des fêtes, qu'il repousse les lois d'impureté, alors Hava Amina, j'aurais pu penser, Char Korbanot Sibur Abayin Lechaper, que c'est seulement à propos des sacrifices publics qui viennent expier Aval Omer Veshte Alechem. Mais l'offrande de Homer et les deux pains, des enbaim de chaper, qui ne viennent expier rien du tout, et la lehatir be'almaninu, alors, mais qui viennent que permettre la consommation de la nouvelle récolte. Alors là, j'aurais pu penser que ces deux offrandes-là ne peuvent être offertes en état d'impureté. Kamashmalan, c'est pour cela que le verset nous a dit que ça aussi c'est considéré comme étant moed, une offrande de la fête, et que cela repousse, les lois d'impureté. Et si la Torah n'avait écrit que à propos de l'offrande du Homer et l'offrande des deux pains, que ces deux offrandes repoussent les lois d'impureté, les Choudaïs seulement, hein, alors je n'aurais pas pu apprendre de là les autres sacrifices. Pourquoi? Habermaina, j'aurais pu penser, Adarabah, au contraire, Homer veshte alechem d'alimé. L'offrande du Homer et l'offrande de deux pains qui sont importantes. Pourquoi? Des baïn latir qui viennent permettre la consommation de la nouvelle récolte. Alors elles peuvent repousser les lois d'impureté. Aval, anar, mais tous les autres sacrifices, l'eau, non, peut-être qu'elle ne repousse pas. Kamashmalan, c'est pour cela que nous avons besoin d'un verset aussi explicite pour chaque chose. Pour l'offrande du Homer et des deux pains, pour les sacrifices des fêtes, et pour le sacrifice de l'holocauste journalier, et le sacrifice du Pessah. Maintenant, la Gemara nous dit, Savroi, ils ont pensé dans la maison d'études, de l'écoule alma, tuma de chouyari, betibour, que d'après tout le monde, l'impureté est repoussée en public. C'est-à-dire, il y a deux façons de réfléchir. Première façon de réfléchir, c'est de dire Touma Outra, que la Touma a été permise. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il y a une loi qui nous dit que l'on n'a pas le droit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Et cela entraîne deux choses. Première chose, il y a un interdit d'offrir un sacrifice lorsqu'on est impur ou lorsque la bête qui a été offerte est impure, ça c'est premièrement. Et deuxième chose, lorsque le sacrifice a été offert en transgressant cette loi, le sacrifice n'est pas accepté. Mais nous avons vu que lorsque la majorité du peuple est impur, alors à ce moment-là, on a le droit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Et maintenant, il y a une discussion et il y a deux façons d'aborder la chose. Il y a une première façon de réfléchir qui nous dit « Touma utra betibo ». Les lois d'impureté ont été annulées lorsque la majorité du peuple est impure. Et donc, il n'y a plus aucun interdit d'offrir un sacrifice en état d'impureté. Et donc, ce sacrifice peut être offert et automatiquement, il est accepté. Par contre, il y a une autre façon de réfléchir qui nous dit « Touma dehuya betibo ». Les lois concernant l'état d'impureté ont été repoussées. C'est-à-dire que l'interdit n'a pas été entièrement annulé, mais il a été repoussé. Et nous disons que dans un cas pareil, nous permettons d'offrir un sacrifice en état d'impureté, bien que l'interdit reste en place. Et donc en fait, ce fait que la majorité du peuple soit impur n'a permis qu'une seule chose, c'est que de permettre d'offrir le sacrifice. Mais ça ne fait pas encore que le sacrifice est accepté. Et donc, c'est ce que la Gemara nous dit. Au Beit HaMidrash, ils pensaient que d'après tout le monde, les lois d'impureté n'ont été que repoussées et pas entièrement annulées. Betibo, lorsque la majorité du peuple est impure. Et donc, en fait, ça a permis d'offrir le sacrifice, mais ça ne dit pas encore que le sacrifice est accepté. Comment le sacrifice peut être accepté? Ou ba'at tzitz l'eratzot. Et nous avons besoin du tzitz pour permettre d'accepter pour faire que le sacrifice est accepté par Akadosh Baruch Hu. Le tzitz est la plaque que le Kohen Gadol portait sur son front. Et il avait cette particularité qu'il faisait que lorsqu'un sacrifice était offert en état d'impureté, soit parce qu'on ne savait pas que c'était impur, ou soit, dans un cas comme nous venons de citer, que les lois d'impureté ont été repoussées, alors lui, il faisait que le sacrifice était accepté. Ça, c'était ce que le tzitz faisait. Et donc, nous, on pensait une chose pareille, que les lois d'impureté ont été repoussées et le sacrifice a été accepté par l'intermédiaire du tzitz. De leika tana de shamatle de amar tuma de utra betibo, car il n'y a aucun tana qui pense que les lois d'impureté ont été annulées lorsque la majorité du peuple est impur, et la rabuda, seulement rabuda, de tanya, car nous avons enseigné dans une boita, tzitz, le tzitz, la plaque que le Kohen Gadol portait sur son front. Ben sheyeshno al mitzro ou ben sheyeno al mitzro, soit qu'il se trouve sur le front du Kohen, soit qu'il ne se trouve pas sur le front du Kohen, marté, il faisait accepter les sacrifices. D'ivrei Rab Shimon, ce sont là les paroles de Rab Shimon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous disait, non. Odeu al mitzro marté, si le tzitz est sur le front du Kohen Gadol, alors les sacrifices qui sont amenés en état d'impureté, soit parce qu'on ne sait pas qu'ils sont impurs, soit parce que ça a été permis, alors à ce moment-là, le tzitz fait accepter les sacrifices. Eno de wal mitzro, mais s'il ne se trouve pas sur le front du Kohen Gadol, eno marti, il ne fait pas accepter les sacrifices. Amalo Rav Shimon, alors Rav Shimon lui a dit, Kohen Gadol beyom akipurim yuchiach, je peux t'amener une preuve du service du grand prêtre le jour de Kippour. Car lorsque la majorité du peuple est impure, alors le Kohen, même s'il était impur, avait le droit de faire le service de Kippour. Or, durant le service de Kippour, il ne portait pas le tzitz sur son front. Chez Eno al mitzro, il n'avait pas le tzitz sur son front, et malgré tout, Umarté, les sacrifices qu'il a portés durant Kippour étaient acceptés. Amarlo, alors il lui a répondu Rabbi Yehuda, Hanach le yom akippurim, tu ne peux pas amener une preuve de yom Kippour, chez Touma ou Drabetzibo. Car lorsque la majorité du peuple est impure, alors à ce moment-là, les lois concernant l'impureté sont complètement annulées. Et donc, nous n'avons pas besoin du tzitz pour faire accepter les sacrifices. Michlal de Rav Shimon. Donc, de là, ça veut dire que Rav Shimon, ça va, pense, Touma de Choyai Betzibo. Que les lois d'impureté ne sont que repoussées lorsque la majorité du peuple est impure. Et donc, c'est pour ça que nous avons besoin du tzitz pour faire accepter les sacrifices. Et donc, ça, c'est la première donnée que la Gemara nous dit. Que Touma dehuyai betibur, les lois d'impureté ne sont que repoussées lorsque la majorité du peuple est impure. Et donc, ça ne fait que permettre d'offrir le sacrifice, mais pour que le sacrifice soit accepté, nous avons besoin du tzitz, de la plaque que le Kohen Gadol portait sur son front. Et la Gemara nous donne maintenant une seconde donnée. Védekule alma en atzitz merate alachilot. La Gemara pense que d'après tout le monde, le tzitz ne fait pas considérer la viande qui est d'un sacrifice qui est devenu impur comme étant consommable. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui nous dit que la viande d'un sacrifice qui est devenue impure, on n'a pas le droit de la consommer. Et il y a une discussion, est-ce que le tzitz peut la considérer comme étant consommable? C'est-à-dire pas que elle est vraiment consommable et qu'on aurait le droit de la manger, mais qu'on la considère comme si elle était consommable, et à ce moment-là, il y aura plusieurs lois qui découleront d'une chose pareille. Premièrement, comme nous allons le voir un peu plus loin, d'après Rabbi Yehoshua, il y a une loi qui nous dit que si la viande n'est pas consommable, on n'a pas le droit de jeter le sang de ce sacrifice sur l'autel. Donc si le tzitz fait considérer cette viande comme étant consommable, on aura le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Ça, c'est une première chose. Et il y a encore deux autres différences que nous étudierons Bezrat Hashem plus loin, Daf Ainchet Amud Aleph. Maintenant, la Gemara demande. Donc maintenant, la Gemara pose comme donnée. Elle dit qu'on pense, d'après tout le monde, que le tzitz ne peut faire rendre la viande consommable. Si la viande est devenue impure, alors elle est impure, et le tzitz ne peut pas la considérer comme étant consommable. Pourquoi? Pourquoi pensons-nous une chose pareille? De lei katana de shamat le de amar, car on a un katana que nous avons entendu dire de sa part, que atitz merate à l'achilot, que le tzitz rend la viande consommable, et la rablezer, seulement rablezer de tania, car nous avons enseigné dans une boîte, hein. Rablezer omer, rablezer dit, atitz merate à l'achilot, le tzitz fait rendre la viande d'un sacrifice qui est devenu impur consommable. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, en atzitz merate al achilot. Le tzitz ne peut faire rendre la viande d'un sacrifice qui est devenu impur, la considérer comme étant consommable. Alors maintenant la Gemara avec ces deux données. Première donnée, que les lois d'impureté n'ont été que repoussées. Et deuxième donnée qui nous dit que le tzitz ne peut considérer la viande d'un sacrifice qui est devenu impur comme étant consommable. Alors, Neima Madnitin de Loke Rabbi Yehoshua. Allons-nous dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehoshua. Pourquoi? Détania, car nous avons enseigné dans une Braïta. Et là, la Gemara va commencer d'abord par nous expliquer l'opinion de Rabbi Yehoshua. Et plus loin, à Moudbet, la Gemara nous expliquera pourquoi notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yehoshua. Détania, car nous avons enseigné dans une Braïta. Vasita Olotecha. Il est écrit dans un verset, et tu feras tes holocaustes, Abbasar ve Adam. La viande et le sang. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua nous dit, de cette juxtaposition-là, j'apprends, Imen Dam. En basar, si le sang ne peut être jeté, la viande du sacrifice ne peut être consommée. Imen basar, en dam. Et si la viande du sacrifice ne peut être consommée, on n'aura pas le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, dam afalpich en basar, on aura le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Chez Nehemar, comme il est dit, vedam zevachecha yeshaper, et le sang de tes sacrifices sera versé. Donc, de toute façon. Et en fait, quel est le cas, par exemple, que la viande n'est pas consommable? Par exemple, si elle est devenue impure, elle a été perdue ou elle a été brûlée. Maintenant, la Gemara demande, Umani mekayem vasita olotecha basar vadam. Alors, maintenant, comment d'après Rabbi Eliezer, je peux accomplir le début du verset qui nous dit, et tu feras tes holocaustes, la viande et le sang. Et nous voyons qu'il faut faire la viande et le sang. Alors, la Gemara répond, l'omar lecha pour te dire, madame bezrika, basar bezrika. Ça vient te dire que de même que le sang est jeté sur l'autel, de même, la viande qui est montée sur l'autel et qui est brûlée sur l'autel devra être jetée sur le bûcher de l'autel et non pas déposée dans le feu. Et Véomer, donc de là tu dis, Lul Katan Yeshben Keves la Misbeach, il y avait un petit espace entre la montée de l'autel et l'autel lui-même, donc un espace vide, et cet espace était là pour rappeler au Kohanim qu'il fallait jeter la viande dans le feu et pas la déposer dans le feu. La Gemara demande maintenant, Rabbi Yehoshua nami active, et d'après Rabbi Yehoshua aussi, pourtant il est écrit, Vedam zevachecha yishaper, et le sang de tes sacrifices sera versé. Et de là j'apprends de toute façon, même si la viande n'est pas consommable. Amalecha, alors Rabbi Yehoshua te dit, quelle est l'explication de ce verset? Active gabe, va basar tochal. Non, ça vient pas dire que le sang sera versé, jeté sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable, car il est écrit juste après, et la viande, tu la mangeras? Donc, puisqu'il écrit la viande, tu la mangeras. De là, j'apprends que tu jettes le sang seulement lorsque tu manges la viande.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons d'Af à Inzaim à Moudbet. Alors la Gemara demande, Vanetre Krae Lamali. Alors d'après Rabbi Yoshua, pourquoi avons-nous besoin de deux psukim? Il y a un premier verset qui nous dit, Vasita Olotecha Basar Badam, et tu feras tes holocaustes, la viande et le sang. Et ça vient nous dire que le sang ne peut être jeté sur tel seulement lorsque la viande est consommable. Et après cela, il y a un deuxième verset qui nous dit, Vedam Zevachecha Yishaper, et le sang de ces sacrifices sera versé sur l'autel, ben Basar Tochal et la viande tu consommeras. Pourquoi avons-nous besoin de dire ces deux versets-là? Alors la Gemara répond non, Chad Be'olav et Chad Be'shlamim. Un verset parle des holocaustes et l'autre verset parle des sacrifices rémunératoires. Vetricha, et nous avons besoin des deux versets, c'est-à-dire nous avons besoin d'un verset qui enseigne cette loi et dans les holocaustes et dans les rémunératoires. Pourquoi? Dit Katavrachmana Be'olav, car si la Torah n'avait écrit cette loi-là que à propos des sacrifices holocaustes, Hava Amina, j'aurais pu penser dire, Olai de Chamira, l'holocauste, étant donné qu'elle a les lois des sévères, chez Ken Khalil, car elle est entièrement brûlée, alors aussi, on n'aura pas le droit d'en jeter le sang si la viande n'est pas consommable. Aval Shalamim, de l'Ochamire, mais les rémunératoires qui n'ont pas des lois tellement sévères, Imalo, j'aurais pu penser que non, et qu'il n'y a pas d'obligation de jeter le sang seulement si la viande est consommable. Donc c'est pour ça que nous avons besoin d'écrire cette loi à propos des rémunératoires. Vekatavrachamana Shalamim, et si la Torah nous avait enseigné cette loi que à propos des sacrifices rémunératoires, Hava Amina, j'aurais pu pouvoir se dire, Aderaba, au contraire, Deit Beoshte Achilot, car les sacrifices rémunératoires sont consommés par deux personnes. Et en fait, ici, la Gemara fait allusion au fait que dans les sacrifices rémunératoires, une partie du sacrifice est offerte sur l'autel, et une partie du sacrifice est mangée par les hommes. Et donc, en fait, ça s'appelle deux consommations, c'est mangé par deux personnes. Car nous considérons le fait que la viande soit brûlé sur l'autel, c'est comme si en fait, en quelque sorte, Akadosh Baruch Hu mangeait de cette viande, et donc c'est appelé une achila, achila de gavoie, la consommation de Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, dans les sacrifices rémunératoires, il y a deux consommations. Premièrement, l'autel prend une partie de la viande, et deuxièmement, les propriétaires mangent la seconde partie de la viande. Donc étant donné qu'il y a deux consommations, j'aurais pu penser alors qu'il y a cette loi-là, que pour jeter le sang sur l'autel, il faut que la viande soit consommable. Aval olam et les sacrifices holocaustes des led bechte achilot qui n'ont pas de consommation mais qui sont seulement brûlés sur l'autel imalo. Alors j'aurais pu penser qu'il n'y a pas cette loi là, c'est pour ça que le verset a aussi spécifié cette loi à propos des sacrifices holocaustes. Agma demande verabliezer nami active verabasar tochal. Verabliezer ici aussi, pourtant il est écrit et la viande tu mangeras, et donc comment lui peut-il dire qu'on a le droit de jeter le sang même si la viande n'est pas consommable. Pourtant, juste après le verset qui nous dit qu'on jettera le sang sur l'autel, il est dit que l'on devra manger la viande. Amar lecha, alors il te dit, Haomi bay elenan, ce verset, il vient nous apprendre autre chose. Shehen abasa mutar ba'achila, atche izarek adam, que la viande n'est pas permise à la consommation tant que le sang n'a pas été jeté sur l'autel. Et donc, c'est en fait ce qu'on vient de te dire. D'abord, tu jetteras le sang sur l'autel et après cela, la viande est permise à la consommation. La Gemara demande, yachi, alors si c'est ainsi, alors peut-être, si c'est ainsi, c'est en fait tout ce que ce verset, c'est peut-être que c'est seulement ça qui vient nous apprendre. Et qui nous dit qu'on peut apprendre de ce verset que l'on aura le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. D'où apprenons-nous que l'on a le droit de jeter le sang, même si la viande n'est pas consommable? Alors Rabbi Eliezer te répond, non. Si ça avait été ainsi que le verset avait voulu nous apprendre seulement que l'on a le droit de manger la viande seulement après que le sang a été jeté, mais ça ne devait pas nous apprendre que l'on a le droit de jeter le sang, même si la viande n'est pas consommable. En Irtov Rachmana, que la Torah écrive, Abasar tochal, vadar dam zevachecha ishaper. Que d'abord on écrive, tu mangeras la viande, et après cela, on le dise, et le sang de tes sacrifices, tu seras versé sur l'autel. Kedirtiv Barecha, comme c'est écrit, au début du verset. C'est-à-dire qu'au début du verset, nous avons mentionné d'abord la viande et après le sang. Et donc, à la fin du verset, que l'on mentionne aussi d'abord la viande et après le sang. Pourquoi le verset a changé d'ordre? Donc, si le verset a changé d'ordre, ça vient nous apprendre deux choses. Premièrement, d'abord, du verset en lui-même, nous apprenons que la viande n'est consommable, n'est permise à la consommation seulement après que le sang a été jeté sur la terre. Et deuxièmement, du fait que le verset a inversé l'ordre, ça vient nous apprendre que l'on a le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Et cela, nous l'apprenons du fait que la Torah a inversé l'ordre. Et, car au début, nous avons d'abord mentionné la viande et après le sang. Et ici, nous mentionnons d'abord le sang et après la viande. C'est ce que la Gemara nous dit, Ve'asita olotecha basar v'adam. Dans le premier verset, nous avons dit, et tu feras tes holocaustes, la viande et le sang. Et donc, nous mentionnons d'abord la viande. Alors, Majna Dag de Meledam Zevachera, pour quelle raison, dans le second verset, nous avons fait précéder le verset qui nous dit, et le sang de tes holocaustes, de tes sacrifices, sera versé. Shemamina, ça vient nous apprendre, Dam Afalpi Shen Basar, que l'on a le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Mais Shemamina, ça vient nous apprendre aussi autre chose, Shen Abasar Mutar Barila, Achizare Kadam, que la viande d'un sacrifice n'est pas permise à la consommation, tant que le sang n'a pas été jeté. L'agma demande maintenant, Rabbi Yoshua, en abassar mutar bachilat chizarek adam. Lui, Rabbi Yoshua, d'où apprend-il que la viande n'est permise à la consommation qu'à partir du moment où le sang a été jeté? Alors, l'agma dit, kalva chomer, il apprend par un raisonnement a fortiori. Uma emorin dechilit neu lo meagve. Si déjà, les membres qui sont brûlés, les membres du sacrifice qui sont brûlés sur l'autel. Alors, s'ils ont été perdus, ils n'empêchent pas la consommation de la viande. Kid neu, lorsqu'ils ne sont pas, ils n'ont pas été perdus. Et donc, s'ils sont là, mais agvé. Alors, tant qu'ils n'ont pas été offerts sur l'autel, ils empêchent la consommation de la viande. C'est-à-dire que, on n'aura pas le droit de consommer la viande tant que les membres n'ont pas été brûlés sur l'autel. Or, dame, le sang, des chilet et meakev, qui lorsque lui, il n'est pas là, lui, il empêche de manger la viande. C'est-à-dire que si le sang a été perdu, par exemple, ou il s'est renversé, ou n'importe quoi, ou il est devenu impur, on n'a pas, si le sang donc n'est pas jeté sur l'autel, on n'aura pas le droit de consommer la viande. Alors, qui était le col chicken des Makev? Alors, lorsqu'il est là, et c'est-à-dire qu'on peut le jeter sur l'autel, n'est-ce pas à plus forte raison que tant qu'il n'a pas été jeté, la viande n'est pas consommable, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été jeté, il empêche la consommation de la viande? Alors, la Gemara demande, Rabbi Eliezer, pourquoi lui ne l'apprend-il pas d'un raisonnement a fortiori? La Gemara nous dit, Milta de Atia Bekal Vachomer, quelque chose que l'on peut apprendre par un raisonnement a fortiori, le verset s'est dérangé et l'a malgré tout écrit. C'est vrai qu'on aurait pu l'apprendre par un raisonnement a fortiori, mais le verset s'est dérangé et l'a malgré tout écrit. Et la Gemara demande alors, vers Rabbi Yoshua. Alors Rabbi Yoshua, lui, pourquoi ne dit-il pas une chose pareille? Car lui, il pense, chaque verset que l'on peut apprendre quelque chose de ce verset, on l'apprend. Et donc, on ne dit pas que le verset est venu nous apprendre quelque chose que l'on aurait pu apprendre par un raisonnement a fortiori, mais on apprend autre chose. Maintenant, la Gemara demande, Hashta Leima, Madnitin Delok et Rabbi Yoshua. Allons-nous dire maintenant que, donc, d'après, c'est les deux données que nous avons vues plus haut, et l'opinion de Rabbi Yoshua que nous venons de voir, c'est-à-dire les deux données qui sont que, premièrement, les lois d'impureté sont repoussées en public, et deuxièmement, que le tzitz ne peut considérer la viande d'un sacrifice qui est devenue impure comme étant consommable. Alors, allons-nous dire que notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Yoshua. Pourquoi? De Kevan de Amar Bainan Tarte, car étant donné que lui il a dit que l'on a besoin de deux choses. Premièrement, que la viande soit consommable, donc qu'elle soit pure, et que deuxièmement que le sang soit pur et ait la possibilité d'être jeté sur l'autel. Et si la viande n'est pas consommable, on n'a pas le droit de jeter le sang sur l'autel. Et il a dit aussi Vetita Achilot Lomarte, il a dit aussi que le tzitz ne peut considérer la viande comme étant consommable. Et que les lois d'impureté ne sont que repoussées en public. Et donc, en fait, il n'y a que eu une permission d'abattre le sacrifice, mais ça ne vient pas nous dire que la viande est considérée comme étant pure. Donc, en fait, ici, il y a de la viande impure. Et cette viande n'est pas considérée comme étant consommable par l'intermédiaire du tzitz. Donc, maintenant, la viande est impure. Donc, puisque la viande est impure, d'après l'opinion de Rabbi Yoshua que nous venons d'apprendre, Eichi, Ate, Betuma, comment avons-nous la possibilité d'offrir ce sacrifice? En état d'impureté, on n'aura pas le droit d'en jeter le sang sur l'autel, étant donné que la viande n'est pas consommable, car elle est impure. Et donc, comment pouvons-nous dire dans la Mishnah que 5 offrandes ont le droit d'être offertes en état d'impureté? La Gemara répond, à Filotem, à Rabbi Yoshua, non, tu peux même dire que cette Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yoshua, et la Kassava Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua pense, à Tzitz, mais la Tzé à la Olin. Le Tzitz peut faire accepter les membres d'un sacrifice qui ont été offerts en état d'impureté. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui nous dit que les membres d'un sacrifice qui sont offerts, on n'a pas le droit de les offrir sur l'autel lorsqu'ils sont devenus impurs ou en état d'impureté. Mais, s'ils ont été offerts en état d'impureté, alors le tzitz fait que ce sacrifice est malgré tout accepté. Et donc, en fait, c'est ce que Rabbi Yoshua pense. Que le tzitz peut faire accepter les membres d'un sacrifice qui ont été offerts en état d'impureté. Et donc, puisque le tzitz peut faire accepter les membres du sacrifice qui ont été offerts en état d'impureté, alors ici, en fait, la viande, en fait, est considérée comme étant consommable. Car, en fait, lorsqu'on offre un sacrifice, nous avons déjà expliqué plus haut, il est consommé par deux personnes. Soit par l'autel, soit une partie par l'autel et une partie par les propriétaires. Or, si l'autel a la possibilité de consommer sa part, mais si les propriétaires n'ont pas la possibilité de consommer la leur, d'après Rabbi Yoshua, cette viande est appelée de la viande consommable et on aura le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Et donc, si c'est ainsi, nous pouvons très bien dire que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yoshua. Car c'est vrai que les lois d'impureté ne sont que repoussées en public, et que le tzitz ne peut faire considérer la viande comme étant consommable, c'est-à-dire que nous considérons cette viande comme si elle était consommable par les propriétaires. Mais le tzitz peut faire accepter les membres du sacrifice qui ont été offerts sur l'autel en état d'impureté. Et donc, en fait, c'est vrai que cette viande n'est pas consommable par les propriétaires, mais elle est consommable par l'autel, et puisqu'elle est consommable par l'autel, on aura le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Alors, la Gemara nous dit « Hatinach zevachim de kaolin ». Ça, c'est possible de donner cette explication et de dire que Rabbi Yoshua pense une telle chose pareille, d'expliquer Rabbi Yoshua dans la Mishnah, seulement à propos des sacrifices, car dans les sacrifices, il y a des membres que l'on monte sur l'autel. Et là, Omer Veshtalechem, mais l'offrande du Omer et des deux pains que nous avons mentionnés dans la Mishnah, des Lekaolin, qui n'ont pas de reste, qui sont montés sur l'autel. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on offre un sacrifice, le sang est jeté sur l'autel. Et le reste, c'est-à-dire la viande, alors elle est divisée. Une partie est offerte sur l'autel et une partie est mangée par les propriétaires. Donc de même, à propos de l'offrande du homer et des deux pains, c'est vrai qu'il y a une partie qui est offerte sur l'autel de l'offrande de l'homer, mais cette partie correspond au jet du sang. Donc ça n'est pas pris en considération. Maintenant, on regarde par rapport au reste. Or, dans ce qui reste de l'offrande du homer, on ne dit pas qu'il y a une partie qui est offerte sur l'autel et une partie qui est mangée par les propriétaires. Mais tout est entièrement mangé par les propriétaires. Et donc, puisque tout est entièrement mangé par les propriétaires normalement, étant donné qu'ici nous parlons d'un cas où ils sont en état d'impureté, donc ils n'auront pas le droit de la manger. Et puisqu'ils n'ont pas le droit de la manger, alors on n'a pas le droit de brûler sur l'autel la partie de l'offrande qui est prélevée, qui correspond au jet du sang du sacrifice. Et donc, Maïkal et Mémar, qu'avons-nous dire, comment pouvons-nous dire que Rabbi Yoshua est d'accord sur ce point-là avec la Mishnah? Alors, Amri, ils ont dit, qui a Rabbi Yoshua nami de bainan tarte. Mais lorsque Rabbi Yoshua a dit que l'on a besoin des deux choses, c'est-à-dire que l'on a le droit de jeter le sang sur l'autel seulement lorsque la viande est consommable. Et donc, à propos du sacrifice d'Homère, cela correspond au fait de dire que l'on a le droit de brûler la partie qui est brûlée sur l'autel seulement lorsque le reste de cette offrande d'Homère est consommable. Alors, c'est seulement Bisvachim. Cette loi n'a été dite seulement à propos des sacrifices. Bemenachot lo amar, mais à propos des oblations, cette loi-là n'a pas été dite. Or, l'offrande du homer est une oblation. Et donc, c'est vrai que le reste de l'offrande, dans ce cas-là, n'est pas consommable, mais on n'a pas besoin que le reste de l'offrande soit consommable pour en brûler sur l'autel la partie qui est brûlée d'habitude. Alors, la Gemara demande, ou bemenachot lo amar, quoi sur les oblations? Rabbi Yoshua ne pense pas une chose pareille. Ve'atnan, pourtant nous avons enseigné dans une Mishnah, hein. Nitmeu shiraea, si les restes de l'oblation sont devenus impurs. Abdu shiraea, où les restes de l'oblation ont été perdus. Alors, c'est-à-dire que nous parlons ici d'une oblation dont la partie qui doit être brûlée sur l'autel a été prélevée, et donc le reste est soit devenu impur, soit a été perdu. Alors, kemedat Rabbi Eliezer kishera, suivant l'opinion de Rabbi Eliezer, cette offrande est valide, et l'on aura le droit d'en brûler la partie qui a été prélevée sur l'autel. Car c'est vrai que le reste n'est pas consommable, le reste qui correspond à la viande, mais malgré tout, on a le droit d'en brûler la partie sur l'autel, car ça correspond au jet du sang. Et d'après Rabbi Eliezer, on a le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Kemidat Rabbi Yoshua, et suivant l'opinion de Rabbi Yoshua, Pesula, cette offrande n'est pas valide. Car, d'après Rabbi Yoshua, on n'a pas le droit de jeter le sang sur l'autel d'un sacrifice si la viande n'est pas consommable. Et dans les oblations, donc, ça correspond au fait que si le reste de l'oblation n'est pas consommable, qui correspond à la viande, on n'aura pas le droit d'en brûler sur l'autel, la partie qui a été prélevée pour être brûlée sur l'autel, qui correspond au jet du sang. Alors, donc, nous voyons ici explicitement que Rabbi Yoshua a enseigné sa loi, même à propos des oblations. Alors, nous répondons, kemidat, velo kemidat. Ici, nous parlons suivant l'opinion de Rabbi Yoshua, mais pas suivant l'opinion de Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, kemidat, Rabbi Yoshua, cela suit l'opinion de Rabbi Yoshua, des bains intartés que l'on a besoin de deux choses, c'est-à-dire que la viande soit consommable lorsqu'on jette le sang sur l'autel. Et donc, de même, on a besoin que le reste de l'oblation soit consommable lorsqu'on en brûle la partie sur l'autel. Velo kemidat Rabbi Yoshua, mais cela ne suit pas l'opinion de Rabbi Yoshua d'un autre côté. Pourquoi? Dilo Rabbi Yoshua, bezvachim amar, bemenachot lo amar, car Rabbi Yoshua lui s'est exprimé seulement à propos des sacrifices et pas à propos des oblations. Velo aitana, et par contre ce tana, ça va rafilo bemenachot, il pense que cette loi s'applique même dans les oblations. Alors, la Gemara nous dit, comment est-il possible d'expliquer, de dire une chose pareille? Umanu aitana dekae kevate, quel est le satana qui pense comme lui? Umachmir femine, qui est encore plus sévère. Rabbi Joshua, lui, il est d'accord qu'à propos des sacrifices, le satana dit que cette loi s'applique même dans les oblations. Vod, et de plus, Tania, nous avons enseigné dans une breta. Amar Rabbi aussi a dit, et cette breta, nous allons voir son explication exacte un peu plus loin d'Af Ainchet à Moudalev, car apparemment Rabbi aussi là va nous dire des choses qui sont contradictoires. Et donc, l'explication exacte de cette breta, nous allons la voir plus loin d'Af Ainchet à Moudalev. Mais pour l'instant, nous allons amener une preuve des paroles de Rabbi aussi. Rabbi aussi a dit, Roé ani et divré Rabbi Ezer bemnachot ou bezbachim, j'accepte les paroles de Rabbi Ezer dans les oblations et dans les sacrifices. Védivré Rabbi Yoshua, Bezvachim ou Benachot. Et les paroles de Rabbi Yoshua dans les sacrifices et les oblations. Comment cela? Divré Rabbi Ezer Bezvachim, j'accepte les paroles de Rabbi Yoshua à propos des sacrifices. Shaya Omer, car il disait, Dame Afalpi, Shen Sham Bassar. On a le droit de jeter le sang sur l'autel, même si la viande n'est pas consommable. Védivré Rabbi Yoshua, Bezvachim, j'accepte les paroles de Rabbi Yoshua dans les sacrifices. Shaya Omer, car il disait, Imen Dame En Bassar. Si le sang ne peut être jeté sur l'autel, on n'a pas le droit d'en consommer la viande. Imen basar en dame, si la viande n'est pas consommable, on n'a pas le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Divré Rabbi Eliezer ben Menachot, j'accepte les paroles de Rabbi Yoshua dans les oblations. Shayomer, car il disait, komet afalpi shen shiraim. On a le droit de brûler la partie qui est prélevée, on a le droit de la brûler sur l'autel, même si le reste de l'oblation ne sont pas consommables. Et divré Rabbi Yoshua ben Menachot, j'accepte les paroles de Rabbi Yoshua dans les oblations, qui, Shayomer, car il disait, imen komet en shiraim. Si la partie qui a été prélevée ne peut être brûlée sur l'autel, on n'a pas le droit d'en consommer les restes. Imen shiraim, mais si les restes ne sont pas consommables, en komet, on n'a pas le droit d'en brûler la partie qui a été prélevée sur l'autel. Donc nous voyons ici, c'est vrai que les paroles de Rabbi aussi sont complètement contradictoires. Et ça, nous avons déjà dit que nous allons expliquer un peu plus loin. Mais nous voyons de toute façon que Rabbi aussi dit explicitement que Rabbi Yoshua a enseigné sa loi, même à propos des oblations. Et donc si c'est ainsi, à nouveau revient la question que nous avons vue plus haut. Comment expliquer la Mishnah à propos de l'offrande de Homer et des deux pains, suivant l'opinion de Rabbi Yoshua? Alors la Gemara nous dit, elle a qu'à savoir. En fait, il faut dire que Rabbi Yoshua pense, elle a qu'à savoir, Rabbi Yoshua pense, Hatzit meratze ala olin ve ala achilot, que le tzit fait accepter les membres d'un sacrifice qui ont été offerts sur l'autel en état d'impureté, et ça fait accepter le sacrifice. Et deuxièmement, le tzit peut faire considérer la viande d'un sacrifice qui est devenue impure comme si elle était consommable. C'est-à-dire que c'est sûr que nous ne permettons pas de la consommer, mais nous la considérons comme si elle était consommable. Et donc, puisque nous la considérons comme si elle était consommable, on aura le droit d'en jeter le sang sur l'autel, puisqu'elle est consommable, nous la considérons comme consommable, donc là, on aura le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Et donc c'est pour cela que notre Mishnah peut suivre l'opinion de Rabbi Yoshua. Voilà, on me demande, Yahi, c'est ainsi, Hamai Kemidat Rabbi Yoshua Psula. Pourquoi avons-nous dit plus haut, à propos d'une oblation dont les restes sont devenus impurs, que suivant l'opinion de Rabbi Yoshua, cette oblation est invalide? Car étant donné que les restes sont devenus impurs, on n'a pas le droit d'en brûler la partie qui a été prélevée sur l'autel. Or, d'après ce que nous venons de dire, Atzit Meratze Alachilot, le Tzit considère la viande d'un sacrifice qui est devenu impur, ou dans notre cas, le reste d'une oblation qui est devenue impure, comme étant consommable. Or, si elle est considérée comme étant consommable, on a le droit d'en brûler la partie qui a été prélevée sur l'autel, car le reste est consommable. Alors, la Gemara répond non. À Avot Vessarouf, ce que nous avons dit, que d'après l'opinion de Rabbi Yoshua, cette oblation est invalide, c'est seulement dans le cas où le reste de l'oblation a été perdu ou a été brûlé. Mais si elle est devenue impure, l'oblation est valide. La Gemara demande, et là nitma les mantanés. Alors c'est ainsi, pourquoi avons-nous enseigné dans cette braïta le cas où le reste de l'oblation est devenu impur? Les Rabbi Eliezer, allons-nous dire que cette loi n'a été enseignée que pour nous enseigner l'opinion de Rabbi Eliezer? Pshita, c'est évident. Si déjà, dans un cas où le reste de l'oblation a été perdu ou a été brûlé, et que donc le reste n'est même pas là, malgré tout Rabbi Eliezer rend valide cette oblation et dit que l'on a le droit d'en brûler la partie qui était prélevée sur l'autel et l'oblation est valide. En nitma déité, alors le cas où l'oblation n'est que devenue impure et donc le reste est devant nous. C'est pas que le reste a été perdu, le reste est devant nous. Alors mi baye, avons-nous besoin de dire une chose pareille, que l'on a besoin, qu'on a le droit d'en brûler la partie qui a été prélevée sur l'autel? C'est évident. Donc à nouveau revient la question, pourquoi avons-nous enseigné le cas de Nitma, du cas où le reste est devenu impur. Et la Pshita, les Rabbi Joshua. Donc c'est évident que ce cas-là est enseigné pour nous apprendre l'opinion de Rabbi Joshua dans un cas pareil. Vektane, nous avons enseigné que l'opinion de Rabbi Joshua est Pesula, que l'oblation est invalide. Donc ça prouve que le Rabbi Joshua ne peut pas penser que le Tzitz peut faire considérer les restes de l'oblation comme étant consommable. Véod et de plus, Tanya, nous avons enseigné dans le Vata. Rabbi Joshua nous dit, Kol zevachim sheba Torah, tous les sacrifices mentionnés dans la Torah, ben shenitma basar vechelev kayam, soit si la viande est devenue impure et les graisses qui sont brûlées sur l'autel sont restées pures, ou ben shenitma chelev ou basar kayam, ou soit si les graisses sont devenues impures et la viande est restée pure, zorek et adam, on aura le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Aval nitmeu tarvayu, mais si les deux sont devenus impurs, et les graisses qui sont brûlées sur l'autel et la viande, lo, on n'aura pas le droit d'en brûler, d'en jeter le sang sur l'autel. Alma, donc de là nous voyons qu'Asava Rabbi Joshua, que Rabbi Joshua pense, et la tzitz miratze à la olin, velo à la achilot. Le tzitz ne peut faire accepter les membres qui ont été brûlés sur l'autel en état d'impureté, et ne peut faire accepter le sacrifice dans un cas pareil, et il ne peut, car nous avons vu que dans le cas où les deux, c'est-à-dire les graisses et la viande sont devenues impures, on n'a pas le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Or, si le titre était meratzer à la holine, si le titre pouvait faire accepter les membres d'un sacrifice qui sont devenus impurs et qui ont été brûlés sur l'autel, pouvait faire accepter une chose pareille. Alors, pourquoi Rabbi Joshua dit dans un cas où les deux et les membres et la viande sont devenus impurs, alors on n'a pas le droit d'en jeter sur le sang sur l'autel. Même si les membres sont devenus impurs, mais étant donné que le titre est meratzer, le titre peut faire accepter une chose pareille, alors on aura le droit normalement d'en jeter le sang sur l'autel. Et deuxièmement, de là nous prouvons aussi que le tzitz il n'est pas meratzé à la chilot. Le tzitz ne peut faire considérer la viande d'un sacrifice qui est devenu impur comme étant consommable. Car si le tzitz peut faire considérer la viande d'un sacrifice qui est devenu impur comme étant consommable, hein, même dans le cas où les deux sont devenus impurs, la viande et les graisses, nous considérons la viande comme étant consommable, et donc on aurait le droit d'en jeter le sang sur l'autel. Pourquoi Rabbi Joshua nous dit que l'on n'a pas le droit d'en jeter le sang sur l'autel? Donc de là, ça prouve que Rabbi Joshua n'est pas d'accord avec ces deux lois-là. Et là, l'olam, alors il faut dire qu'en fait, toujours Rabbi Joshua, malgré tout, notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Joshua, bien que Rabbi Joshua pense que le tzitz ne peut faire considérer le reste de la viande comme étant consommable. Et donc apparemment, on n'aurait pas le droit d'en jeter le sang sur l'autel, malgré tout, notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Joshua. Velo kasha, et il n'y a pas de question. Quand les quatre là, quand Yavad, ici nous parlons d'un cas a priori, et là nous parlons d'un cas a posteriori. C'est-à-dire, qui a ma Rabbi Joshua lorsque Rabbi Joshua dit que l'on n'a pas le droit d'en jeter le sang? Les quatre là, c'est a priori. Diavad, mais si a posteriori le sang a été jeté, alors Rabbi Joshua n'a jamais rien dit, et le sacrifice est accepté. Donc dans notre Mishnah, nous parlons d'un cas a posteriori, dans un cas où le sang a déjà été jeté, c'est pour ça que le sacrifice est accepté. Et d'où savons-nous que Rabbi Joshua fait-il une différence entre a priori et a posteriori? Détania, car nous avons essayé dans une baïta. Nitma basar o shenifsal o sheyatzachus leklaim. Si la viande d'un sacrifice est devenue impure, ou elle est devenue impure à un degré d'impureté qu'elle ne peut rendre impure, ou elle est sortie à l'extérieur de l'enceinte du temple, si elle devait être mangée que dans le temple, alors, Rabbi Eliezer nous dit, Yizarek, malgré tout, le sang pourrait être jeté sur l'autel, bien que la viande n'est plus consommable. Rabbi Joshua nous dit, Loizarek, le sang ne sera pas jeté. Ou modé Rabbi Joshua, et Rabbi Joshua est d'accord, Sheim Zarak, que si le sang a été jeté, Hurta, le sacrifice est accepté. Donc nous voyons que Rabbi Joshua fait une différence entre un cas a priori et a posteriori. Et donc, Rabbi Joshua lui a enseigné sa loi a priori, mais notre Mishnah nous parle d'un cas a posteriori. Alors la Gemara refute cette réponse. Non. Chada, premièrement, des Pesula, que lorsque nous avons enseigné dans la Braïta que l'oblation est invalide, Diabad Mashmash, ça vient sous-entendre nous dire que même a posteriori, c'est-à-dire que même dans un cas où la partie qui a été prélevée a été brûlée, a posteriori, nous ne disons pas que l'oblation est valide. Vod et de plus, Chamishad Varim Baim, il est écrit dans la Mishnah que 5 choses sont offertes, les quatre ilas, machma, ça sous-entend, elles sont offertes, même a priori. Alors comment pouvons-nous dire que notre Mishnah nous parle d'un cas a posteriori? Et donc, à nouveau, revient la question que peut-être notre Mishnah ne suit pas l'opinion de Rabbi Joshua.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.